un peu du mouvement au Kassai oriental. J'ai reçu totalement cette idée.
Moi, c'est Céline de Koumati au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Les directeurs généraux et directeurs retraités de l'administration publique en 2009-2010 se disent abandonnés et sollicitent l'implication du chef de l'État pour qu'ils soient payés leurs indemnités de fin de carrière. Des anciens fonctionnaires publics dont le nombre serait estimé à plus de 6000 sont regroupés au sein du collectif des directeurs retraités de l'administration publique. Ceci relance les débats et les explications sur les procédures de mise en retraite des travailleurs en RDC. Comment améliorer les conditions de départ en retraite? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission réalisée par Julie Feza. Paul Badenyama est à la mise en onde et Pierrot et la Menjou vous la présentent sous la supervision de Ben Kabamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Magie.
Et nous avons associé à cet échange M. Fernand Christian Toudjéné, secrétaire général à la fonction publique chargé des actifs. Le fait que les gens se soient plaints de leurs conditions de départ en retraite, cela nous a inspiré à faire l'échange avec vous autour de la mise en retraite. Comment on doit procéder, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui doit venir après. Voilà autant de questions que les gens se posent et nous échangeons avec vous. Si vous avez aussi besoin de nous poser une question, intervenir, poser une question, soit nous donner votre contribution, appelez-nous au 081-890-6315. C'est messieurs Toudjéné Maguenga Fernand Christian. Voilà, j'ai bien prononcé monsieur Toudjéné Maguenga, bonjour.
Bonjour.
Merci de votre disponibilité. En fait, nous sommes partis d'une plainte de anciens secrétaires généraux, directeurs bien sûr à la retraite, pour expliquer à la population et partager autour de la mise en retraite. Qu'est-ce qui doit être fait? Comment cela est-il organisé? Voilà, toutes les questions que les gens se posent autour des SAM, c'est ce qui fait que nous puissions nous retrouver avec vous dans cette émission. Nous vous disons merci pour votre disponibilité. Alors, la première question, avant de parler pratiquement d'autres choses, c'est de dire aux auditeurs comment les services... comment cela est-il organisé en RDC, la retraite? Comment est-il organisé en RDC?
Oui, merci pour la parole. La mise en retraite est organisée par la loi numéro 81-003 du 17 juillet 1981, portant statut du personnel des carrières et services publics de l'État. Mmh. Lorsque vous consultez la loi, à partir des articles 71 jusqu'aux articles 83, vous avez toutes les dispositions requises pour la pension, pour la retraite, la mise à la retraite, et aussi les rentes de donc tout ce qui concerne rentes de service. Mm-hmm. Et en fait, c'est un processus légal. Les conditions de mise à la retraite du moins les conditions pleines, si on peut dire, si on doit avoir une force pleine, c'est 30 ans de service et 55 ans d'âge.
30 ans de service, 55 ans d'âge.
Oui.
Cela veut dire, je peux avoir déjà travaillé pendant 30 ans, j'ai droit à la retraite, mais tout comme je peux avoir travaillé 20 ans, mais j'ai atteint 55 ans d'âge, je dois aller en retraite.
L'une des conditions, on peut remplir les deux à la fois, ou l'une des conditions. Donc, ces conditions ne sont pas exclusives. C'est que vous avez 55 ans d'âge, là, vous êtes d'office mis à la retraite.
Quel que soit le nombre d'années de service.
Bon, oui, quel que soit le nombre d'années de service. Mais plutôt, un agent peut avoir 30 ans de service. S'il n'a pas encore atteint 55 ans d'âge, il peut être autorisé à continuer jusqu'à ce qu'il aura atteint 55 ans d'âge. Voilà, en fait, les deux conditions. Donc, mais pour la mise à la retraite.
Mais est-ce qu'il y a aussi des retraites anticipées? Cela veut dire volontairement je veux aller, ou soit l'État dit voilà, et je peux envoyer les gens en retraite de manière anticipée.
Oui, vous voulez aller à la retraite volontaire, mais il faut avoir accompli au moins 20 ans dans l'administration. Donc, l'agent qui estime qu'il peut aller à la retraite ou même à l'initiative de l'administration s'il y a de l'incapacité ou l'inaptitude physique, l'État peut mettre un agent à la retraite, mais pour autant qu'il ait accompli 20 ans, au moins 20 ans de carrière dans l'administration.
Voilà. Mais revenons maintenant à la pratique. Alors, vous voulez que quelqu'un, l'État fait envoyer ses agents fonctionnaires à la retraite. On commence par quoi et on termine par quoi? Cela veut dire, on vous écrit une lettre, on vous paye l'argent, on continue à vous payer. Comment cela se passe? Parce que la plupart des plaintes, c'est que les gens disent, oui, non, mais mon nom se retrouve sur la liste, je suis parti en retraite pendant que je ne devais pas y aller. Ou sont ceux qui sont partis, ces plaintes, nous sommes allés, on nous a abandonnés. Alors, comment on procède?
Bon, lorsque, bien sûr que la mise à la retraite est consacrée par, pour les agents de commandement, la mise à la retraite est consacrée par ordonnance présidentielle, pour les agents de collaboration et d'exécution, au regard de la loi, c'est par arrêté du ministre de la fonction publique. C'est qu'en fait, lorsque toutes ces conditions sont réunies, et étant donné que chaque agent a un dossier à la fonction publique, et que, surtout à l'issue du recensement, nous avons la situation générale, bien détaillée, de tout agent des carrières des services publics de l'État. Et il faut relever que la mise à la retraite, telle qu'elle s'opère et va s'opérer maintenant, est inscrite dans le projet. Le projet de la réforme, dans le plan de réforme arrêté par le gouvernement, et il y a l'axe rajeunissement. Cet axe rajeunissement comprend pratiquement deux volets. Nous avons la mise à la retraite, les éligibles à la retraite, et le recrutement. Mais bien sûr qu'il ne s'agit pas de parler du recrutement. Donc c'est que il y a une vague qui est programmée. C'est vrai que il y a un constat à faire. La dernière mise à la retraite régulière dans l'administration publique en RDC remonte d'abord en 1983. En 1983. Et puis il y a eu quelques mise à la retraite, mais sectorielle, en 1986. Et après, il y a eu la mise à la retraite, disons, un mouvement de mise à la retraite en 1999, qui a concerné particulièrement les agents de collaboration et d'exécution, et puis est venue celle de 2009 et 2010. Si vous observez, c'est que il y a un constat à faire, c'est qu'on a accumulé pendant près de 30 ans. On n'a pas retraité régulièrement, alors qu'en fait la retraite doit se faire annuellement suivant le plan des carrières arrêtées par la fonction publique. On a accumulé un nombre considérable d'agents à mettre à la retraite. Le recensement actuel a dégagé les statistiques. 150 000 agents de notre administration sont éligibles à la retraite. Et quand on fait le pourcentage, on a à peu près 30 à 40% des éligibles, des effectifs de l'État éligibles à la retraite.
Mais voilà, la préoccupation c'est pour les auditeurs, c'est de savoir comment on procède. On a découvert qu'il y a 150 000 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit allez-y, combien d'argent on donne aux gens? Quelle est la procédure pratiquement? Comment ça se fait quand pour quelqu'un se retrouve à la retraite? Et après, quand il est déjà à la retraite, comment ça se passe en quelques mots pour permettre aux auditeurs d'être fixés?
Bon, écoutez, en fait, l'acte de mise à la retraite est signé. L'agent a quel droit?
Voilà.
L'agent mis à la retraite a droit, premièrement, à l'allocation de fin de carrière. Une allocation pleine de 4 quarts du dernier traitement annuel d'activité si l'agent a accompli 30 ans de service ou plus. Et ensuite, l'agent a droit à la pension de retraite, qui est en fait la portion donc de 1/45 du dernier traitement annuel d'activité multiplié par le nombre d'années de service. Voilà, donc c'est donc les droits de l'agent qui va à la retraite.
Mais est-ce qu'aujourd'hui les gens qui vont à la retraite bénéficient de ces chiffres comme c'est stipulé par le texte?
Oui, eh bien, le gouvernement a budgétisé les mises à la retraite. Tous ces mouvements ont été budgétisés. Et les agents qui vont à la retraite, pour les agents qui vont à la retraite, chaque année, le gouvernement budgétise près de 10 milliards de francs congolais.
Chaque année.
Mais là, c'est à peu près 14 milliards qui ont été budgétisés pour les départs à la retraite, c'est-à-dire surtout, principalement, le calcul de l'allocation de fin de carrière et des frais de rapatriement. Et bien sûr, vous voulez parler de directeur.
Bon, on va revenir là-dessus, en permettant d'abord que vous puissiez préparer d'autres éléments. Le temps d'écouter aussi les auditeurs, parce qu'on fait l'échange avec les auditeurs qui nous écoutent, s'ils ont des préoccupations. On va revenir sur la question des directeurs, des secrétaires généraux dans cette émission, parce que c'est l'actualité, qu'est-ce qui a été fait, où en sommes-nous aujourd'hui. Mais je rappelle encore à nos auditeurs, qui ensemble avec M. Tudjinou Maginga, qui est secrétaire général à la fonction publique chargée des actifs, nous dégageons les pistes et solutions pour améliorer les conditions de départ en retraite en RDC. Appelez-nous au 0-81-890-735 pour intervenir en direct. Nous avons en ligne M. André Mabita. Je crois bien qu'il est concerné par les dossiers des secrétaires généraux, des directeurs. Il pourra aussi nous faire son témoignage. Adrien nous appelle de Kananga au Kassai Occidental et Franck est à Vienne en Autriche. Je rappelle encore le numéro pour intervenir en direct, 0-81-890-735.
Parole aux auditeurs.
Monsieur André Mabita, vous êtes avec nous, bonjour. Monsieur Mabita, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes avec nous dans cet échange autour de la mise en retraite. Je crois que nous sommes partis d'une actualité qui vous concerne. Vous êtes concerné par la mise en retraite de 2009-2010. Vous avez écrit une lettre, vous avez revendiqué vos indemnités de fin de carrière. Voilà autant de revendications. Mais ensemble, nous voulons dégager les pistes de solutions pour voir comment on peut décanter la situation. Mais en ce qui vous concerne, vous, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes dans cet échange, quelle est votre préoccupation aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas été fait, que vous souhaitez qu'il soit fait pour améliorer votre situation?
Bon, de toute façon, je commencerai par le début, monsieur le journaliste. Comme l'a dit monsieur le secrétaire général qui est à votre studio, le ministère de la fonction publique est outillé parce qu'il dispose en son sein de tous les renseignements, les dossiers, les agents recrutés et en service au niveau de l'administration publique. Donc, en 2009 et 2010, nous avions été surpris par la la rapidité avec laquelle l'organisation de retraite avait été faite, et si bien que le contenu même de l'ordonnance avait comporté un certain nombre de faiblesses, notamment les numéros matricules de chaque agent n'avaient pas été rapportés dans l'ordonnance. On avait accordé aux directeurs et même des agents retraités des numéros matricules qui n'existent nulle part. Et dans la même foulée, l'ordonnance comportait aussi le nom des ministres et certaines personnes inconnues dans l'administration publique. Parce que d'habitude, lorsqu'on fait promulguer une ordonnance de mise à la retraite, cette ordonnance est répartie en services. C'est-à-dire que les agents mis à la retraite se retrouvent catégorisés dans leur ministère respectif.
Mmh.
En ce moment-là, la recherche est facilitée pour que chaque agent sache déjà qu'il est dans tel ministère et que son nom est repris comme étant un retraité. Et puis par la suite, comme nous avions dit que c'était une manière improvisée dans la mesure où le ministère de la fonction publique avait tout le temps pour préaviser les agents des cadres, pour que chacun sache qu'il est déjà arrivé à l'âge de la retraite, comme l'a dit le secrétaire général, et qu'il aura accompli autant d'années de service, donc il est éligible à la retraite. Mais alors, la cette mise à la retraite est tombée comme ça, en vrac, et les gens étaient surpris de se dire, le lendemain matin, monsieur, faites la remise de reprise, vous devez partir. Et nous étions partis. Dans l'entretemps, c'est ce qui avait permis que chaque agent ait pu adresser au ministère de la fonction publique des recours individuels pour réclamer, soit pour certains, que l'âge n'avait pas été requis et que le temps même de la prestation de l'administration publique n'avait pas été accompli. Et ceux-là avaient demandé effectivement qu'on puisse les réintégrer. Et il y en a d'autres qui avaient pensé que, ayant occupé des postes de commandement pendant plusieurs années, 15, 20 ans pour les uns et les autres, se retrouvaient dans la retraite au même grade. Alors que la loi dit qu'à la retraite, la personne est bénéficiaire d'un grade en plus à la retraite. C'est ce qui d'ailleurs avait motivé que les directeurs mis à la retraite en ce moment-là, 2009 et 2010, se sont retrouvés dans un collectif pour demander ensemble la suite réservée à leur dossier.
Voilà. Monsieur Mabita, parce que bon, on est en plein échange avec les temps, mais où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que vous avez été écouté? Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour régulariser cette situation? S'il y a encore de revendications, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui?
Bon, d'abord, il y a la loi, monsieur le journaliste. Le statut est une loi. Le statut dit en son article 58 que le délai de réponse à tout recours individuel est de 30 ou 40 ou 90 jours.
Mm-hmm.
Ça, c'est à l'article 58, deuxième alinéa. Or, les recours individuels qui avaient été adressés en 2009 n'ont jamais connu de réponse jusqu'à maintenant. Et même le collectif qui a pris le relais de ses membres pour solliciter justement qu'on puisse répondre à tous ces recours qui avaient été adressés, n'a reçu aucune suite disponible par rapport aux recours adressés individuellement au niveau de la hiérarchie du ministère de la fonction publique. Donc jusqu'à maintenant, il y a des agents qui avaient fait le recours, mais dont la suite n'est toujours pas connue jusqu'à ce jour.
Mmh.
Nous sommes à plus de 2300 ou 2400 jours. Nous sommes très loin de 90 jours.
Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes à l'étape d'abord où on n'a pas, les étudiants ont introduit des recours, n'ont jamais reçu des réponses, mais en fait, qui concerne la situation des autres personnes, est-ce que vous avez suivi les calculs, comme a expliqué notre invité, est-ce qu'il y a des gens qui ont touché la pension, est-ce que ça a été aussi régularisé un peu rapidement pour lui permettre aussi d'apporter les éléments des réponses, et on écoute aussi d'autres auditeurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur notre standard. Hein.
Tout à fait. Merci, monsieur le journaliste. Nous, les retraités de 2009 et 2010 avaient été mis à la retraite conformément aux dispositions de règlement d'administration qui étaient en vigueur en ce moment-là.
Mm-hmm.
Donc au 31 juillet 2009, nous avions des règlements d'administration cette rigueur en ce qui concerne la base de ça, la base salariale initiale, et que nous avons aussi un règlement d'administration sur le rapatriement. Mais les retraités de 2009 et 2010 avaient été surpris de voir publier au niveau du gouvernement un arrêté interministériel qui modifiait pratiquement toutes les dispositions de l'ordonnance sur le rapatriement pour accorder 2000 dollars à chaque agent retraité comme frais de rapatriement, alors que le texte en vigueur au moment de la retraite prévoyait autre chose, un montant beaucoup, beaucoup plus élevé que les 2000 dollars prévu dans la
liste interministérielle. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à M. André Mabita. On a suivi, hein. Il y a d'abord les recours, les revendications, l'argent, l'insuffisance, voilà, des problèmes qui doivent être résolus pour vous permettre de pouvoir vous retrouver. En tout cas, c'est un témoignage très, très important. Nous avons Adrien qui est à Kananga, au Gaza occidental. Franck est à Vienne, en Autriche. Adrien, alors, nous sommes à l'étape où nous dégageons les pistes et les solutions parce que c'est un processus. Qu'est-ce qui doit être fait pour que ce processus soit améliorer et permettre à ceux qui vont en retraite puissent se retrouver sur il faudrait utiliser le terme. Adrien, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs et particulièrement à Franck. Je pense comme piste de solution parce que le décor a été déjà planté par l'invité et puis mon prédécesseur. Moi je pense pour améliorer les conditions des retraités. Premièrement, il faut respecter la loi invoquée par l'invité, donc la loi de 1981. Mm-hmm. C'est cette loi-là qui régit tous les personnels actifs ou bien passifs. Donc, si on respecte cette loi-là, ça sera vraiment la première des conditions. Deuxièmement, Pierrot, je pense qu'il y a urgence au jour d'aujourd'hui pour qu'on puisse essayer un peu de moderniser l'administration publique en République démocratique du Congo. Mm-hmm. Parce que ce que nous sommes en train d'assister au jour d'aujourd'hui, ce sont des choses archaïques. Parce que lorsque vous vous rendez compte, en ce qui concerne les retraités de 2009-2010, mais moi, en tant qu'avocat, si je vous donnais la situation donc à laquelle nous étions soumis ici avec ces gens-là qui étaient venus nous consulter, mais il y a vraiment à boire, à manger et à vomir même. Donc nous nous sommes retrouvés dans des irrégularités imprescriptibles, une cacophonie terrible. Donc je me suis demandé, c'est l'administration publique ou c'est quoi ce que nous sommes en train d'assister. En ce qui concerne la question des recours, nous ici en tant qu'avocats, on a fait les recours et le ministre de la fonction publique nous avait quand même répondu, contrairement à notre prédécesseur, qui nous avait répondu en reconnaissant les erreurs et il a même intimé l'ordre pour qu'on continue toujours à payer comme d'habitude ces agents-là jusqu'à ce que la situation sera régularisée. Mais pour votre information, Pierrot, personne ne bouge. On a bloquer la situation avec la réponse du ministre de la fonction publique, mais on ne veut pas du tout qu'on puisse régulariser la situation et surtout continuer à payer ces agents-là. La conséquence est que avec la bancarisation, ces gens-là ne sont nulle part. Ils ne sont ni, donc leurs noms ne sont ni repris parmi les actifs, leurs noms ne sont plus encore repris parmi les passifs. Ils sont vraiment dans la rue. Or, lorsque nous lisons la loi de 81 à laquelle je faisais allusion, vous allez vous rendre compte que toutes les conditions sont prévues et la condition primordiale, on ne peut pas retraiter les gens comme ça sans toutefois qu'on puisse d'abord les désintéresser de tous leurs avantages. Mais chez nous ici, c'est l'inverse. On vous met d'abord à la porte comme si on vous chassait comme des petits chiens, oubliant que ces gens-là ont servi la République en tout dévouement.
Alors, si on vous suit bien, maître Adrien, vous avez dit qu'il faut améliorer d'abord le respect de la loi. L'invité l'a dit, il faut respecter cette loi et les règles et tout. Si on respecte la loi, il n'y aura pas de problème. Le problème pratique maintenant, c'est que vous en consultez en tant qu'avocat à Kananga. Vous dites que le ministre a répondu quand même, contrairement à Kinshasa, il a répondu. Alors, mais malheureusement, ces gens-là ne continuent pas à toucher leur salaire dès lors que les ministres avaient ordonné. Et maintenant que les salaires sont versés à la banque, ça devient difficile. Ils ne sont repris ni sur les actifs ni sur les passifs. Ils ne savent pas où aller. Alors, tout ça, ça demande la modernisation, la réforme de l'administration publique. Merci beaucoup, Adrien. On va écouter Franck qui est à Vienne. En Autriche, on va revenir maintenant pour que notre invité puisse commenter. Franck, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à votre invité, à tous les amis.
Franck, vous avez suivi Adrien qui dit il faut d'abord le respect de la loi et la modernisation de l'administration. Les deux ensemble, ça peut résoudre cette question de retraite. Alors, comment vous pouvez aussi orienter votre point de vue par rapport à ça? Franck, vous êtes avec nous? Voilà, là on a des petits soucis des lignes, je crois bien, avec Franck, peut-être qu'il nous écoute avec quelques secondes de retard. Franck, si vous êtes avec nous, vous avez suivi les uns et les autres, votre point de vue, dommage, on a perdu Franck qui nous a appelé de Vienne. Nous revenons à vous, monsieur Tudjeno Maginga, vous avez suivi les uns et les autres. Je rappelle encore que s'il y a quelqu'un qui voudrait bien intervenir, appelez-nous au 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Voilà, monsieur Tudjeno Maginga, il y a deux situations. Une situation d'abord pratique, vous voulez déjà intervenir par rapport au directeur et vous avez suivi l'un de ceux qui sont concernés. Il pose d'abord le problème de recours et le problème de ce que les gens devaient toucher pour être plus pratique. C'est d'abord les recours et ce que les gens devaient avoir comme argent pour leur mise en retraite. Et puis, notre ami de Kananga parle de respect de la loi et la modernisation de l'administration. On vous écoute.
Merci pour tous ces auditeurs qui ont posé des questions. Les recours. Sur l'instruction de son essence, monsieur le Premier ministre, le ministre de la fonction publique avait mis en place une commission. Mmh. Une commission interinstitutionnelle pour examiner les recours. Et cette commission a travaillé pour les recours de 2009. Et le ministre de la fonction publique de l'époque avait transmis le rapport de la commission au gouvernement. Parce qu'en fait, à la naissance, c'est le gouvernement qui doit approuver les conclusions du rapport et qui rendra publiques ses conclusions. Et pour le recours de 2010, étant donné que la commission n'avait pas encore remis au ministre de la fonction publique le recours, le ministre de la fonction publique actuel, son Excellence Jean-Claude Kibala, a instruit le bureau de la commission pour accélérer l'examen des dossiers. Il avait même créé un groupe de travail pour évaluer le travail de la commission. Mmh. Et ce rapport, son Excellence Jean-Claude Kibala a transmis le rapport de la commission de recours au gouvernement, qui bien sûr que devra approuver le rapport, et après, les conclusions de ces rapports seront communiquées aux concernés.
Et ça dit que les concernés doivent encore prendre leur mal en patience, attendre autant de temps que toute la procédure soit appuyée au niveau du gouvernement.
Mais puisque cette commission avait été instituée sur l'instruction du Premier ministre, ce n'est que normal que les conclusions de ce rapport soient examinées au gouvernement, approuvées et communiquées aux intéressés. C'était là la procédure qui était définie. Même si le ministre de la fonction publique, lui, est l'instance, le déné, donc disons la déné, l'instance du recours administratif, mais néanmoins, ces décisions sont des décisions du gouvernement et que le ministre de la fonction publique, lui, pour toutes ces conclusions, se réfère au gouvernement qui doit approuver avant que les intéressés puissent en connaître.
Mais est-ce que la loi a été respectée en ce qui concerne le calcul d'argent? On parle dans 2000 dollars forfaitaires que tout le monde aurait reçu. Est-ce que ça a été aussi respecté?
Bon, il y a un fait à reconnaître que dans notre administration, il y a la situation sociale. On ne peut pas, bien sûr, y aller par des détours. Il y a la modicité du salaire. Mmh. Et lorsqu'on calcule donc la pension,
il est que normal que la pension donc elle-même sera donc proportionnelle au salaire. C'est-à-dire qu'en fait, la pension est également donc modique. Mais néanmoins, il faut aussi qu'on reconnaisse la charge qui s'est accrue, qu'on a accumulée depuis la Deuxième République. Parce qu'en fait, c'est ça, pendant la Deuxième République, on n'a plus mis les gens à la retraite. Je vais vous dire que la dernière mise à la retraite, mais c'est en fait en 1983, et celle de 86 n'avait concerné que les secrétaires généraux.
Mmh.
Donc, vous comprenez que du huissier jusqu'au secrétaire général, et puis on n'a plus autant de temps. C'est la charge. Et devant cette charge, quels que soient les efforts que le gouvernement peut entreprendre, vous comprenez qu'une enveloppe de 10 milliards de francs congolais, c'est énorme. Mais devant l'effectif à pouvoir à pouvoir bénéficier de la donc des allocations de fin de carrière, c'est normal qu'il faut programmer. On ne sait pas faire face donc au paiement des allocations de fin de carrière pour tout cet ensemble. Et qu'est-ce que le gouvernement donc a fait? C'est que un arrêté a été pris par le Premier ministre pour fixer forfaitairement les allocations, l'indemnité, l'indemnité de rapatriement. Donc, l'agent bénéficie de la pension, de l'allocation de fin de carrière en fonction de son grade. Il faut observer ici que même si la loi dit que celui qui va à la retraite et qu'il a accompli 3 ans au moins dans le grade, il a une promotion. Mais cette promotion n'a aucun impact sur le calcul de la pension parce que la loi dit que le calcul de la pension est effectué sur base du dernier traitement d'activité, du dernier traitement acquis d'activité.
Les grades n'a pas d'impact, c'est-à-dire on ne peut pas reporter.
Quand on parle de retraite honoraire, c'est ça, le grade qu'on vous donne honorifique. Un grade
honorifique. Cela n'a pas d'impact sur l'argent que vous devez toucher.
Ça n'a pas d'impact sur donc l'argent que doit toucher.
Mais parce qu'on doit, il y a cette préoccupation d'Adrien Descanales qui a parlé du respect de la loi, la modernisation de l'administration. C'est un problème aujourd'hui. Vous avez des gens qui travaillent jusqu'à, nous avons des témoignages des 70 ans, des 80 ans, depuis 50 ans que les gens sont en train de travailler dans l'administration publique. Les gens ne veulent pas partir et vous parlez de la réforme. Pensez-vous aujourd'hui qu'on peut quand même résoudre cette question? 150 000 personnes, c'est quand même énorme, on a besoin quand même de rajeunir aujourd'hui.
Mais oui, justement, c'est ça, le gouvernement piloté par son Excellence Matata Ponyo a planifié. Il y a eu une planification des mises à la retraite avec l'appui de la Banque mondiale. Et pour cela, la Banque mondiale a consenti, dans un accord de dons, 27 millions d'aides au départ qui sont prévues. Et pour corriger justement ces erreurs de 2009 et 2010, nous avons l'exemple du ministère de l'Environnement. Eh bien, les cadres de commandement qui sont passés à la retraite, l'ordonnance du chef de l'État de décembre de 2016, eh bien, avant leur mise à la retraite, chacun a été notifié. De son projet de départ à la retraite. Et l'occasion a été donnée à ceux-là de pouvoir introduire un recours s'ils constataient dans le liste, donc disons dans sur sa fiche, s'ils constataient quelques erreurs ou omissions de certaines données sur sa carrière. Et ils ont fait introduire des recours et après examen de ce recours par une commission interministérielle, on a soumis au chef de l'État l'ordonnance de mise à la retraite. Eh bien, il y a une planification de mise à la retraite, une vague de départ qui est prévue pratiquement pour 2015. D'ici 2015, les conditions restant égales, c'est près de 20 000 qui devaient aller donc à la retraite. Mais bien sûr, programmé. C'était de 2012 à 2015.
Donc 20 000 devaient être mis à la retraite pour une enveloppe prévue de 27 millions.
Oui, il y a Franklin qui est à Bukavu, Richard ici à Kinshasa, Oscar Mupuakananga. La question vraiment, elle intéresse beaucoup de personnes. Mais je reviens rapidement parce qu'il y a cette situation des Kananga. Le ministre aurait écrit pour dire que les gens devaient, en attendant tous les recours, toucher leur salaire. Mais oui. Là, il y a un problème qui se pose. Est-ce qu'on a eu des réponses par rapport
non,
à ça rapidement?
Je pense que il y a eu une note prise par le ministre de la fonction publique, ils ont continué à bénéficier de leur salaire. Il y a là, encore, ce pour qui on n'a pas encore calculé les allocations de fait carrière, notamment des chefs de bureau et des chefs de division, mais ils continuent à percevoir leur salaire d'activité. Et lorsqu'on va, lorsqu'ils vont percevoir, on va liquider, donc payer les allocations de fait carrière et le fédéral appartement, mais là on va donc reconvertir. Donc ils vont passer du statut d'activité au statut de retraité. C'est-à-dire qu'en fait ils passent du salaire d'activité à la pension de retraite.
Voilà, on va revenir à vous. La question vraiment, elle est importante, elle intéresse beaucoup de personnes. Nous avons beaucoup d'appels à travers le pays. Franklin est à Bukavu, Richard ici à Kinshasa, Oscar Mosou nous appelle de Kananga au Kassai Occidental. Comment améliorer les conditions de départ en retraite? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Et je rappelle que nous avons associé à cet échange messieurs Soudjou Noumagenga, secrétaire général à la fonction public est chargé des actifs. Vous êtes partout, vous pouvez aussi intervenir. Mais aussi, les auditeurs ont beaucoup écrit à travers la page Facebook des paroles aux auditeurs. Nous allons aussi exploiter quelques messages liés à Ilunga, Dembujima. L'État congolais doit faire mieux pour commencer à payer ceux qui sont partis déjà à la retraite. Ils ont travaillé pour les pays, qu'ils aient commis des bêtises ou pas, mais dès lors qu'ils ont accompli ce qu'ils devaient faire, il faut que l'État puisse s'occuper de Fidel Senda, des Lubumbashi. L'État congolais doit savoir faire la part des choses. On ne peut pas être doué en promesse et sans beaucoup réaliser. Il faut réaliser ce qui est promis pour permettre à l'administration publique d'être modernisée. Franklin Junior Mbombo, l'État congolais doit être en mesure de prendre en charge les personnes qui sont envoyées en retraite aussi longtemps. Si on n'a pas encore amélioré les conditions sociales, ce sera aussi difficile que ceux qui partent en retraite puissent se retrouver. Merci aux uns, aux autres. Je rappelle encore le numéro d'appel 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Franklin, vous êtes à Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi, bonjour à l'invité du jour.
Vous avez suivi les explications, on vous écoute Franklin.
Oui Pierrot, la question est vraiment préoccupante vu ses conséquences sur le fonctionnement même de l'administration publique.
Mm-hmm.
Moi je pense qu'il ne faut pas penser que cette question concerne uniquement ceux qui réclament leur indemnité et leurs droits aujourd'hui. La question concerne tout le monde. Et ceux qui sont aux affaires et auprès de qui ces retraités sont en train de réclamer, parce que demain ou après demain, ils seront aussi soumis à cette même exercice. Et la question concerne aussi les générations à suivre. Je note que c'est un problème qu'on est en train de léguer aux futurs dirigeants, parce qu'aujourd'hui, c'est 6 000 personnes qui réclament leur indemnité, mais regardez, le sujet auprès de qui on réclame aujourd'hui, demain aussi seront, vont tout ajouter sur la liste, et ça sera une charge énorme pour qui pèsera sur le dirigeant de demain. Moi, je pense que cette situation mérite d'être vraiment réfléchie par le gouvernement et être résolue. Et à ce niveau-là, moi, je voudrais proposer certaines pistes pour que le gouvernement puisse exploiter cette situation. D'abord, moi, je pense que si on y va pour tous les secteurs à un tel moment, on ne peut pas y arriver. Vu les budgets que nous avons pour le moment, qui doit couvrir toutes les dépenses de l'État, moi je pense qu'aller par tout le secteur au même moment, ça ne va pas arriver. Le gouvernement, moi je pense qu'il est important de regrouper d'abord tous ceux qui sont soumis à la retraite. Secteur par secteur, on les identifie et on les regroupe par secteur et on commence à payer chacun selon ce secteur. On peut effectivement commencer par les secteurs productifs. Je prends par exemple les régies financières. On commence à recruter ceux qui sont retraitables dans les régies financières pour qu'on y injecte d'autres personnes qui sont plus jeunes, qui peuvent exploités qui peuvent donner beaucoup de ressources à l'État pour que l'État se soit doté des moyens qui puissent les permettre de retraiter d'autres personnes. Ça, c'est la première proposition. Deuxièmement, il faut aussi discipliner nos dépenses. C'est inconcevable, Pierrot. Vous arrivez dans une administration, le chef de division est autour de 5 000 dollars, mais vous trouvez un huissier qui est autour de 50 dollars et difficilement qu'il acquiert son salaire. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, on doit aussi discipliner nos dépenses pour épargner un certain montant qui puisse nous permettre de faire, en fait, de retraiter certaines personnes qui ont servi l'État pendant un moment. Mm-hmm. Je vais aussi parler de la bancarisation. On nous a dit que la bancarisation a permis à l'État de récupérer certaines qui faisaient la compte dans les postes des individus. Mais moi, je me pose la question. Le surplus là que la bancarisation a permis de récupérer.
Oui, allez-y rapidement, terminer parce qu'il y a aussi Richard.
Oui, le surplus là qu'on récupère grâce à la bancarisation, on ne peut pas le servir pour essayer de diminuer le nombre de retraités. Parce que finalement, la retraite est considérée comme un envoi à la mort qu'on est en train d'envoyer les fonctionnaires de l'État. Ça permet en fait, ça ne permet pas cette bonne gouvernance parce que chacun doit dire pendant que je suis ici, je dois assurer ma famille parce qu'après ici, je ne serai pas à être.
Merci beaucoup, Franklin. Merci, Franklin. Vous avez dit qu'il y a deux, trois pistes de solutions. Vous estimez qu'il faut y aller secteur par secteur. Il faut discipliner nos dépenses, ça veut dire l'équilibre salarial. Il faut aussi voir comment les surplus récupérés avec l'opération des bancarisations peut être réintroduit dans pour les processus de la retraite. Mais vous considérez que c'est une question urgente parce que ça risque de peser sur les billets pour les générations futures. Merci beaucoup. Richard, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Pierrot.
Vous avez suivi, bonjour à l'invité. Vous avez suivi. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient placer un mot par rapport à cet échange. Rapidement alors, en bref, qu'est-ce qui doit être dit et fait pour améliorer?
Oui, je suis d'abord triste de voir que le fonctionnaire de l'État est considéré comme, excusez-moi, par des mouchoirs, ou quand on se mouche, on jette. Alors, qu'est-ce faut-il faire pour améliorer? La première chose, c'est d'améliorer la situation en amont. Lorsqu'on le recrute, on le paye combien? Mon père, qui fut enseignant de l'école primaire, nous a élevés dans une maison de fonds d'avance, à crédit, qui avait 4 chambres, un bureau, cuisine, etc. Ma sœur aînée allait étudier à l'intérieur, elle partait en avion, elle faisait 3 navettes. Et moi, j'étudiais à l'école métropolitaine, mon frère aîné qui était au collège Boboto, ici à Kinshasa. C'était avec quels moyens? La Belgique prenait 80% des recettes réalisées au Congo et dépensait ça en Belgique, et puis 20% au Congo. Voilà ce que la Belgique faisait avec 20%. Maintenant, le Congo, avec les 100%, est incapable de faire quelque chose de bon. C'est ça, c'est triste. Ça, on dit rajeunir. Avec quels jeunes? Ceux qui disent bis, primis, etc.
Oui, alors docteur, ça c'est un autre débat. Le débat recrutement, c'est comme a dit l'invité, on pourra voir quelle qualité faudrait-il aujourd'hui, ça c'est un autre débat. Mais pour ceux qui sont déjà là, vous estimez d'abord qu'il faut améliorer en amont. Cela veut dire que les conditions salariales doivent être organisées en amont, ce qui permet à la personne d'être à l'aise et d'accepter d'aller facilement en retraite. Oui, allez-y, oui.
Oui, ça signifie que ce qu'on a calculé en amont, il le fera en aval à la retraite. Mais en amont, il n'y a rien. Les salaires d'aujourd'hui reprennent quelle rubrique? C'est l'invité nous le disent. Quelle rubrique? L'indemnité familiale ne sont même pas là. Les indemnités familiales.
Voilà, la ligne des docteurs Richard est en train de se détériorer. Il estime qu'il faut d'abord améliorer en amont une enveloppe salariale qui permette aussi à la personne d'accepter facilement d'aller en retraite. Parce qu'il y a notre ami Franklin qui a dit tout de suite, quand on dit à quelqu'un d'aller en retraite, il s'est dit, mais on m'envoie à la mort, autant mieux profiter quand je suis encore là en train de gérer. On va suivre, écouter Oscar Moïpou qui est à Kananga et revenir à notre invité pour placer les mots. Oscar Moïpou, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Kananga, au Kassol, Chidatal. Vous avez suivi les uns et les autres. Quelle est votre préoccupation?
Oui, la question de savoir quel mécanisme mettre sur pied en vue d'améliorer les conditions de la retraite qui se pose aujourd'hui. Moi, je commence par dire que lorsque quelqu'un atteint le troisième âge ou qu'il a fait un mandat, il doit sans doute aller en retraite après qu'il soit servi. Mais ce n'est pas le cas ici chez nous au Congo. cette pratique n'est pas absolument respectée par aucune entreprise ici au Congo. Il y a alors, selon moi, selon mon avis, pour nos différents services chargés de la prise d'impôts, et s'abstenir et la même mise chaque fois dans la caisse des lieux. Ou qu'ils aient au moins la conscience profonde pour savoir que, après autant d'années, 5 ou 6 ans, ces gens engagés seront déjà fatigués, ils seront catégoriquement retraités. Et cela va aussi permettre à l'État de payer ou de servir ou mettre à l'aise.
Oui, et Oscar, là vous avez rejoint Franklin qui a pensé qu'il faut être discipliné, il faut que les recettes puissent être canalisées vers les trésors publics. C'est ce qui va permettre à l'État d'avoir assez de ressources pour pouvoir envoyer les gens à la retraite, avoir des moyens. Parce que vous avez suivi notre invité, a dit nous recourons à une aide de la Banque mondiale. Mais si on avait suffisamment de ressources, cela peut nous permettre de résoudre ces questions. On revient directement à vous, M. Tudionou Magenga. Vous avez suivi notre ami Franck Desvienne. Malheureusement, on l'a perdu. Franklin Debuka, vous pense qu'il faut y aller secteur par secteur. Ça va demander beaucoup de dépenses que si on ne considère pas que c'est une urgence, ça risque de peser sur le gouvernement à venir. Il faut aller secteur par secteur. Il faut discipliner aussi le recette, l'équilibre salarial. Je sais que le docteur Richard a dit comme ça, ça peut permettre à l'État, comme l'a dit aussi Oscar, d'avoir assez de ressources et y aller facilement et envoyer des personnes en retraite facilement.
Merci beaucoup pour merci beaucoup aux auditeurs qui ont posé des questions. Mais avant de répondre à toutes ces questions, je souhaite qu'on revienne un peu sur ce qui est fait. Parce qu'il ne faut pas que les auditeurs pensent que le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement fait un grand effort. Mais, dans le cas des directeurs, il y a eu 827 directeurs qui ont été mis à la retraite. Mais sur ces 800, il y a eu 700 qui avaient introduit les recours. Et le principe était que celui qui a introduit les recours, disons, son recours suspend en fait l'exécution de la loi à ce que ça, c'est-à-dire qu'en ce qui le concerne, pour le paiement des allocations de fin carrière. Mm-hmm. Mais pourtant, ceux qui n'avaient pas introduit de recours, le processus est en cours. Et ils sont en train d'être ceux de qui façon ont été payés. Et il y a une mission qui est donc diligentée, une mission interministérielle, finance, fonction publique, finance et budget, pour aller contenter ceux qui sont en province. Les fonds sont disponibles chez le comptable 636, et les équipes vont aller payer tous ceux qui sont en province. Mmh. Et ceux, je voudrais dire aux auditeurs qui sont en province et qui sont concernés le paiement des allocations fin carrière, que d'ici peu de temps, les équipes vont descendre pour pouvoir leur payer les allocations de fin carrière et les frais de rapatriement.
Voilà, ça c'est ce qui est fait. Bon, alors une proposition des auditeurs aussi, rapidement. Oui.
Bon, écoutez, je pense que les propositions des auditeurs, il y a des auditeurs qui ont trouvé des pistes de solutions, mais je vois que ces auditeurs, lorsque le ministre de la fonction publique vulgarise la réforme, ils ne suivent pas. Et je pense qu'il est que tous les auditeurs ou les fonctionnaires eux-mêmes soient attentifs à ce que le gouvernement fait. Il y a un projet ambitieux de la réforme de l'administration publique et qui attend à trouver des solutions concrètes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on applique la loi. C'est la loi de 1981. Mais lorsque nous regardons l'aspect de la sécurité sociale, parce qu'il faut ça, c'est en fait la sécurité sociale du fonctionnaire. Mais cette loi n'a pas introduit une sécurité sociale, ce que je peux dire, sécurisante. Et la gestion, pourquoi il y a une réforme? C'est parce qu'il y avait une gestion calamiteuse des ressources humaines et la méconnaissance des effectifs. On ne sait pas. Comment est-ce qu'on peut planifier si on ne connaît pas ces effectifs? Parce qu'en fait, nous y allons parce que la solution, c'est dans la loi. Et la réforme actuelle a prévu la solution. C'est que
on passe du régime, parce que le statut actuel a consacré le régime octroyé. Donc, vous êtes fonctionnaire tout, durant toute votre vie, mais aujourd'hui, le projet de statut qui est au Parlement a consacré le régime contributif.
Et c'est là ce que je voulais dire.
Pour la création de la caisse de retraite.
Voilà, on va y revenir. Où en sommes-nous avec la réforme initiée? C'est tout un débat, c'est tout un échange en parole aux auditeurs. On pourra voir comment, si c'est possible, de pouvoir analyser cela avec vous, avec le ministre, sous celui qui peut être disponible pour expliquer. Vous avez dit que les gens ne sont pas informés quand le ministre vulgarise. C'est ça aussi un problème de communication. Comme je l'ai dit, peut-être que les gens ne sont pas assez informés de ce qui s'est fait. On pourra revenir pour voir comment en parler. C'est une occasion. Mais permettez...
Je vais revenir à la question de Franklin.
Allez-y rapidement.
Donc,
parce que
disons que, oui, le gouvernement a anticipé ce que Franklin dit. Aujourd'hui, la mise à la retraite est programmée. On a prévu 7 ministères pilotes. Mm-hmm. Vous avez la fonction publique, vous avez les finances, vous avez le budget, le plan, le portefeuille. Donc, entre autres... Et c'est, il y a un projet qui va identifier les éligibles à la retraite et qui va s'occuper de l'accompagnement de tous ceux qui seront et qui sont éligibles à la retraite. Bon, bancarisation. Je vous dis que le GAP a permis au gouvernement de mécaniser un grand nombre d'écoles. On parlait des écoles, des agents, des enseignants NP. Aujourd'hui, le nombre de NP a diminué. Et ce gap a permis de payer un plus aux professeurs. Ça a permis de mécaniser 500 médecins.
Voilà, il y a autant de préoccupations. On sait qu'il y a beaucoup de questions qu'il faudrait, auxquelles il faut trouver des solutions. On ne pourra pas tout vider en ce moment. Nous avons un dernier auditeur, hein. Adrien, vous êtes à Matadi. Parce que là, on est bousculé par le temps, il faut conclure l'émission. En 30 secondes, Adrien, vous avez suivi les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous?
Pour moi, je retiens le problème de l'impunité des dirigeants. La punition, c'est pour seulement le petit peuple. Qu'est-ce que fait-il que maintenant nous avons le pays que nous avons connu, que nous avons connu comme un paradis, qui devient aujourd'hui en dessous de tous les pays qui étaient. Bon, j'ai mal de l'expression, mais c'est vrai que le Congo n'a jamais changé à l'époque coloniale comme la Première République. Mais qu'est-ce que fait-il qu'aujourd'hui, le fonctionnaire, c'est-à-dire l'homme de la fonction publique, le militaire, comme les policiers, sont pris comme des marchepieds, un directeur, un secrétaire général qui est sous-payé. Bon, de toutes les façons, qu'est-ce qui fait que tout cela doit être en bas, en dessous de tout cela, comme si les numéros...
Vous insistez, oui, je crois bien, Adrien, vous insistez sur l'impunité, vous estimez qu'il faut, et d'ailleurs cela a été évoqué par Anelka, Mayo, qui nous a écrit des siro, qui dit ceci, mais les gens réclament aujourd'hui les indemnités de fin de carrière, mais quel a été aussi l'apport de tous ceux qui ont travaillé dans l'administration publique, Désiré Bassaki, Alain Bahamé, et Freddy, qui nous ont écrit d'Ouvira, souhaitent tous que l'État congolais puisse améliorer les conditions de vie de fonctionnaires, agents de l'État, avant de pouvoir les envoyer en retraite. Merci aux uns et aux autres. Vous avez été très nombreux. Le débat, il est intéressant, mais on ne peut pas le vider aujourd'hui. On revient à vous, monsieur le secrétaire général, parce qu'on a quand même besoin de conclure cette émission. Alors, nous retenons qu'il y a des procédures, il y a des réformes, il y a ce qui doit être fait, mais le souci des gens, c'est que l'opération se fasse dans la transparence, que les gens soient informés qu'ils vont à la retraite, qu'ils touchent leur ce qu'ils doivent toucher et qu'on voit aussi cette administration publique rajeunie. Alors, quel est le dernier message que les auditeurs peuvent retenir par rapport à ça en une minute et demie, parce qu'on doit vraiment terminer cette émission?
Oui, mais écoutez, on déplore la situation, elle ne date pas d'aujourd'hui. Pendant la colonisation, le régime de mise à la retraite, en fait, était contributif. Et il était retenu à chaque agent de l'État un pourcentage, bien sûr, une contribution, mais après donc l'indépendance, mais bon, peut-être qu'on a estimé que, comme on dit, scandale géologique, on croyait qu'on pouvait trouver de l'argent pour payer les gens, même s'ils sont passés à la retraite. Donc, même aujourd'hui, l'Allemagne qui utilise, donc disons qui octroie le système, mais tant à réformer le système. Donc, ce qu'il fallait, une sécurité sociale qui a manqué pendant toutes ces années, mais que le gouvernement va mettre en pratique, donc va mettre en œuvre d'ici dans quelques temps. Donc, c'est pour dire qu'il y a une planification. On ne pouvait pas faire une planification sans connaître les effectifs. Maintenant, on connaît les éligibles. On sait les planifier d'ici 5 ans, merci, ceux qui doivent aller à la retraite et ceux dont ils doivent bénéficier. Donc disons, progressivement. Pour l'environnement, c'est une expérience qui nous éclaire et qui nous donne pratiquement une lueur d'espoir. Mais la véritable lueur d'espoir, c'est quoi? C'est de réformer la loi et qu'on passe du régime octroyé au régime contributif.
Voilà, merci beaucoup Monsieur Tudjenou Magenga d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire général à la fonction publique chargé des actifs, mais la question autour de la réforme, où en sommes-nous aujourd'hui avec tout ce qui a été initié, c'est vraiment aussi en débat dans parole aux auditeurs. Merci à toute l'équipe, merci à tous ceux qui nous ont suivis dans cet échange. On n'a pas idée de toutes les questions, mais du moins, on peut toujours en parler. On vous dit tous merci, au revoir.
Allô? 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 Il ne répond pas?
On se retrouve demain, mercredi à 10h, soit minute heure de Kinshasa. Nous allons parler de la prévention des accidents de circulation dans la province de Bandundu. Il y a une semaine, 13 morts causés par accidents de voiture. On se retrouve demain pour parler des accidents dans votre milieu et des mesures pour les prévenir. Merci à Paul Badanyama, à Julie César qui nous a aidé à produire cette émission présentée par Thierry Lamegi et supervisée par Ben Kabamba. Vous allez retrouver l'émission sur www.radiocapuy.net. Au revoir.